Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Sex and the City.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Et je ne vais pas vous raconter Sex and the City du point de vue de ses interprètes, même si cela en vaudrait la peine. Et pas non plus du point de vue de l'époque qu'elle symbolise, ni de la ville dont elle représentait le summum artistique, de la mode dont elle était devenue le gourou avec des marques qu'elle mettait en avant. Non, nous allons plonger dans le cœur de la série grâce à ses scénaristes. L'occasion m'a été donnée de les rencontrer longuement et leur témoignage va vous surprendre et vous en apprendre bien plus que personne n'aurait jamais pu le faire. Payer pour voir de la télé. Si cela est maintenant notre quotidien, à coup d'abonnement à Netflix, Amazon Prime, Canal+, Série ou OCS Go, qui représente le cœur de nos envies sérielles, et sans compter sur les prochaines qui débouleront dans les mois à venir, et Disney+, et Warner, mais si nous remontons un peu le temps ces années 90, l'idée de payer pour une chaîne télé était franchement incongrue. Avec des télévisions privées ou publiques qui regorgeaient de programmes, à quoi bon ? HBO aux États-Unis commençait à convaincre que l'abonnement en valait la peine grâce à ses retransmissions sportives et à ses films en première exclusivité. Et sans pub, c'était très important ça, pas de publicité qui interrompt les programmes toutes les 12 minutes. Mais en ces années 90, HBO va tenter de développer une autre de ses spécificités, la plus grande permissivité en ce qui concerne la violence et surtout le sexe. En France, c'est ce qui a fait que Canal+ pouvait programmer un film pornographique le samedi soir. Mais aux États-Unis, HBO a choisi plutôt d'en faire le facteur attractif de ses premières séries originales. Pensez donc, des séries, de toute façon, il y en avait déjà à foison, presque 10 chaque soirée sur les networks. Donc si HBO en faisait une, il fallait qu'elle se démarque des autres. Après The Hitchhiker, c'est Dream On, qui sur le format habituel de la comédie parsème son intrigue de scènes de sexe. Et en 1997, Oz, la première série dramatique originale conçue pour la chaîne, mélangeait ultra-violence et sexualité débridée dans le cadre d'une prison de haute sécurité. En 1998 arrive donc une nouvelle comédie qui affiche la couleur jusque dans son titre, sexe. Mais pour être indissociable, mais comme on est sur un environnement urbain, la ville de New York va aussi s'y attacher, au point d'en être indissociable. Donc, Sex and the City. Et ça a l'avantage marketing d'être une série qui indique clairement son sujet avant même la première image. Un titre pareil, aucun network n'aurait jamais osé. De plus, au même moment, le scandale Monica Lewinsky éclate et l'Amérique entière se met à parler de sexe. À l'origine de la série, il y a deux créateurs. Un homme et une femme. Mais si je commence par l'homme, vous allez le voir, c'est uniquement pour des raisons de narration. Ça paraît inimaginable, mais l'homme qui a créé pour la télévision la série branchée, impertinente, décalée et hors norme, c'est le même qui a créé la série qui sera la quintessence du soap de et pour teenagers, sirupeux et artificiels, j'ai nommé Beverly Hills. Eh ouais, c'est en effet Darren Star qui débarque chez HBO, auréolé de son statut de créateur de deux méga-succès, Beverly Hills et Melrose Place, mais aussi de séries qui ont été des échecs cuisants, comme par exemple le terrifiant Central Park West en 1995, CPW comme on dit. Destiné à être un méga-carton qui allait relancer tout le network CBS et attirer un public jeune, il s'agissait avec CPW d'un soap urbain sophistiqué qui bénéficie de méga-stars comme Raquel Welch, Lorraine Hutton, Marielle Hemingway, Matt Chenemick et un tout jeune John Barrowman. Après deux mois d'audience absolument désastreuse, la série est totalement reformatée pour ressembler plus à un Dallas qu'autre chose et elle est diffusée en plein été où, évidemment, elle se plante à nouveau. C'est vous dire que Darren Star arrive à HBO non pas en conquérant, mais avec son étoile sérieusement écornée, un peu tarnie par cette catastrophe d'audience. Et c'est justement ce qui va le séduire. Écoutez ce qu'il me disait de ses motivations initiales et du succès inattendu que remporta Sex and the City. Nous étions au festival de télévision de Monte Carlo, c'était en 2009. Ce fut une surprise parce que mon intention quand j'ai créé Sex and the City était de faire une série qui était justement pas la série de network. Le critère que j'avais n'était pas de faire de l'audience, mais d'atteindre un succès créatif. Et je ne pensais donc pas que la série pouvait devenir un hit. Les séries que j'avais faites auparavant sur des networks devaient toujours être soumises à la pression d'être des succès. Mais sur HBO, c'était quelque chose d'unique et de très créatif. Il y avait déjà la base d'abonnés, de toute façon. Ils ne désiraient que d'avoir une bonne série. Je ne m'inquiétais donc pas de faire de Sex un succès d'audience. Le fait qu'il en soit devenu un est justement étonnant. C'était une surprise. Et oui, les contraintes très différentes de HBO sont donc libératrices pour lui. Et il peut aller chercher son projet là où nulle autre chaîne n'aurait été le chercher, dans les chroniques très osées de Candace Bushnell. Voilà la deuxième créatrice de la série. Un an plus tôt, le livre était sorti et compilait ces mêmes papiers qu'elle écrivait régulièrement dans le New York Observer. Elle y racontait ses rencontres romantiques et sexuelles au sein de New York et celles aussi de ses proches amis. Dans la série, Carrie Bradshaw, c'est ni plus ni moins que l'auteur Candace Bushnell, CB, les mêmes initiales. Avec ses trois amies, Miranda, Samantha et Charlotte, elles sont inséparables. Elles partagent leur expérience sur la sexualité et leur espoir de passer un jour de relation purement sexuelle à une relation suivie, d'autant qu'elles ont un âge allant de la trentaine à la quarantaine. Darren Star achète les droits du livre pour $50,000 et il travaille donc à son adaptation pour HBO. Sarah Jessica Parker n'a pas été immédiatement séduite par le rôle de Carrie Bradshaw et voulait même ne pas faire partie de la série une fois l'épisode pilote tourné. Mais c'est ce à quoi servent les pilotes, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, sous les conseils de Parker, des changements furent apportés dans le style même de la série. Christine Davis, que l'on connaissait déjà pour le rôle de Brooke dans Melrose Place, incarne ici Charlotte, l'optimiste et romantique du groupe. Elle rêve du mari parfait et va tenter de le trouver plus que de s'envoyer en l'air quand l'occasion se présente. On se souvient moins de Kim Cattrall pour ses rôles dans Des Columbo, dans L'Incroyable Hulk ou dans Starsky Hutch aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Hold Up et surtout dans un film Star Trek, le sixième, The Undiscovered Country, le dernier à réunir tous les membres de la série classique. Elle y incarnait une Vulcaine, la lieutenant Valeris. Et pour l'anecdote, elle fit même réaliser une séance photo nue dans le décor de l'Enterprise. Mais ne les cherchez pas, hein, les photos. Leonard Nimoy a fait tout détruire quand il a appris cela. Donc, Cattrall était toute désignée pour tenir le rôle de la sulfureuse Samantha. Indépendante, drôle, bien décidée à ne avoir que des relations sexuelles sans lendemain avec des hommes, mais même aussi avec une femme. Cynthia Nixon tient le rôle de l'avocate, mûre et sûre d'elle. Miranda Hobbs, très très loin de l'exubérante Samantha. Miranda se méfie des hommes et Steve, le barman qu'elle a rencontré, doit la poursuivre de ses assiduités pour que leur relation puisse commencer à se nouer. Dès les premiers épisodes, la série va ponctuellement nous retracer les aventures romantiques de ces femmes qui se parlent sans tabou ni faux semblant. Charlotte se fait peindre le vagin, devient accro à un vibromasseur et Samantha, elle, va s'amouracher de James, qui a un pénis minuscule. Bon, la saison suivante, elle rencontrera un homme avec un pénis gigantesque. Et toutes les quatre vont conseiller Charlotte dans un taxi, dans une scène qui fera date.
Les mots sont très importants. Répète-moi exactement ce qu'il t'a dit. On sort ensemble depuis 2 semaines et demie. Je t'aime vraiment beaucoup. Et demain soir, après le dîner, j'aimerais qu'on ait un rapport anal.
Tout dépend à quel point il te plaît.
Je l'adore.
Tu l'adores seulement pour quelques mois en attendant mieux ou tu l'adores au point de l'épouser et de tout quitter pour lui?
Je ne sais pas, je suis pas très sûre.
Tu ferais bien de te dépêcher de le savoir.
Arrête, tu me fais peur.
Très bien.
Tu te l'effrayer.
C'est le pouvoir, le véritable enjeu. S'il emprunte ce passage, le pouvoir va changer de main. Soit c'est lui qui va prendre le dessus, soit c'est toi. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est celui qui a le pénis qui détient le pouvoir. Et quand on conduit, on regarde devant soi. Ce qu'il faut se demander, c'est si tu le laisses entrer par là, est-ce qu'il te respectera plus ou moins qu'avant? C'est tout ce qui compte.
Devant, derrière, on s'en fout. Un trou, c'est un trou.
Tu entends ce que tu dis?
Oh, pas la peine de faire ta mijaurée, ça te ferait pas de mal, un petit coup par derrière.
Eh, je suis pas un trou.
Oh, c'est bien, Charlotte. Tout ce que je voulais dire, c'est que si ça existe, c'est pour qu'on s'en serve. Ça fait aussi partie de notre corps, alors où est le mal? Et entre parenthèses, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que vous racontez? J'ai grandi chez les bonnes sœurs.
Dis-toi qu'avec un homme qui a de l'expérience et un bon lubrifiant.
Qu'est-ce que c'était?
Une répétition.
J'ai toujours aimé écrire pour des personnages féminins forts. Je me suis toujours bien débrouillé quand j'écris sur des relations modernes, avec un ton humoristique et sophistiqué. Et je continue dans cette direction. C'était Darren Star. La toute première saison de Sex and the City se termine par la rupture très nette entre Carrie et Mr. Big, le personnage incarné par Chris Noth de la série New York District. Un personnage dont on ne connaît ni le nom, ni le prénom. S'il se dit sincèrement attaché à Carrie, Mr. Big maintient une distance qui finira par l'irriter. Dans la saison 2, Carrie reçoit le coup de grâce. Mr. Big va se marier avec Natasha. Le mariage est une chose qu'il ne lui avait jamais proposée. À partir de là, la série se modifie assez clairement et feuilletonne de plus en plus. Et ce n'est pas qu'une impression. Le producteur de la série, John Melfi, m'en avait parlé en détail. Dans notre atelier d'écriture, chacun débarque avec ses histoires, ses vraies anecdotes de la vie, ses rendez-vous, des choses qu'on a vécues, qu'on a lues. Et certains scénaristes s'identifient avec certains personnages. Et je pense que ça devient naturel. Une fois que vous évoquez l'idée d'un scénario que vous avez eu, chacun connaît si bien les personnages que clairement, ça c'est une trame pour Miranda ou ça c'est une trame pour Charlotte. Si vous voulez ajouter un peu de rebondissement à la vie de Charlotte, alors il faut lui donner l'histoire avec le vibromasseur. Et si c'est Charlotte qui hérite de cette histoire, c'est que c'est elle qui va avoir le plus de difficultés avec ça. Mais ça va être totalement drôle et on va la voir s'y impliquer. Et si on recherche donc avec qui cela pourrait devenir vraiment très drôle, Charlotte doit avoir le vibromasseur. Ce ne serait pas drôle d'avoir Samantha qui déciderait de l'utiliser parce que c'est dans son caractère de l'utiliser. Nos arcs narratifs deviennent bien plus importants à partir de la saison 3, quand Carrie trompe Ethan. Et c'est devenu un arc narratif pour notre histoire. À ce moment-là, la série est devenue plus portée sur les histoires, moins découpée en chapitres, comme l'étaient les deux premières saisons. Ouais, les premières saisons étaient réellement comme des chapitres du personnage, une journée dans leur vie. Dans la troisième saison, Carrie se lie à Aidan, incarné par John Corbett. Il va même lui faire sa déclaration en mariage à la saison suivante. Mais repoussant sans cesse la date, Carrie va finir par rompre. Miranda, elle, est à nouveau avec Steve qui veut fonder une famille. Mais Miranda refuse de sacrifier sa carrière et porter un enfant. Charlotte, elle, va rencontrer et tomber amoureuse de Trey, un brillant cardiologue incarné par Kyle MacLachlan, l'acteur de Twin Peaks. Sauf que, concrètement, une fois marié, Trey s'avère être impuissant et ne désire pas changer quoi que ce soit dans son statu quo. Après une séparation, Trey va cependant revenir dans la vie de Charlotte. Ils vont tenter d'avoir un enfant, mais quand Trey renonce finalement à fonder une famille, Charlotte décide de le quitter une bonne fois pour toutes. Dans la saison 4, Steve, l'ami de Miranda, est atteint d'un cancer des testicules et Miranda va donc l'aider à surmonter ce drame en couchant avec lui. Et à sa surprise, elle va tomber enceinte. Elle va garder le bébé qui se prénommera Brady. Piégée dans une relation qui ne devait être que sexuelle au départ, Samantha et Richard incarné par James Remar, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que Richard va lui être infidèle et ça brisera leur relation. Miranda, elle, va aussi commencer une relation avec Robert, un afro-américain, médecin, interprété par Blair Underwood. Mais elle ne peut pas oublier Steve, elle va lui avouer ses sentiments et elle va se marier avec lui. Dans la saison 5, Charlotte commence une relation purement sexuelle avec son avocat, Harry, incarné par l'acteur Evan Handler. À la longue, les choses deviennent sérieuses et Charlotte va même se convertir au judaïsme pour lui. Mais on arrive à la sixième et dernière saison de la série. Et là, c'est très intéressant, parce que Samantha va traverser une rude épreuve. En relation avec un jeune serveur, Jerry, interprété par Jason Lewis, elle va découvrir qu'elle a un cancer du sein et elle devra subir une chimiothérapie. On sent clairement que, avec la saison précédente et celle-ci, la dernière, le ton de la série a changé. J'avais demandé au producteur de la série, John Melfi, de me confirmer cela. Écoutez bien toutes ses explications et son analyse. Nous allons maintenant vraiment aller au cœur des motivations et de l'écriture de cette série. En fait, les premières saisons étaient plus optimistes. Et les deux dernières sont plus... Ouais, introspectives. Bon, on est bien du même avis. Parce que dans la vie, on ne peut pas avoir le sexe comme motivation à tout pendant si longtemps. On finit par ne plus avoir d'idées. Surtout quand on fait une série télé, on va épuiser le personnage. Il faut commencer à explorer sa vie intérieure. Celle-ci commence à émerger très naturellement au cours des sessions d'écriture. On soumet des idées de scénarios qui vont de plus en plus profondément dans cette direction-là. Les années passent et le personnage évolue lui aussi. Il se modifie, il devient un personnage pleinement réalisé. C'est inévitable.
You were saying that
Vous parlez d'approfondir les personnages, au point de donner le cancer à un des personnages. Vous n'aviez pas peur que cette trame, tout spécialement le fait que ça s'applique à Samantha, puisse aller trop loin? En fait, non, c'était très proche de nous, de nos scénaristes, de nos femmes scénaristes. Trois d'entre elles ont eu un cancer, trois parmi les six scénaristes. Et une d'entre elles en est morte l'année dernière. Son nom était Judy Troll. C'était tellement présent parmi nous que nous devions d'explorer cet aspect. Parce que nous sommes une série de femmes. Que le cancer du sein est une épidémie. Et que nous ne voulons pas l'ignorer. Et cette trame nous a permis d'explorer la sexualité de Samantha. Car cela la force à diminuer ses activités. Donc on avait un personnage dont la vie reposait littéralement sur une sorte de liberté sexuelle et qui ne se sent plus très sexuelle. Ça nous a amené à beaucoup d'idées très intéressantes. C'est un personnage qui proclamait ouvertement « Les gens pensent que je suis une mauvaise personne et que je mérite donc ce qui m'arrive. » C'est n'importe quoi. Et elle se rebelle contre ça, commence à porter des perruques, à devenir de plus en plus dingue, un peu comme des personnages d'Almodovar. Ouais, avec ses perruques, avec ses tenues outrancières. Elle va même encore plus loin avec les tenues outrancières. Elle a connu un peu la dépression. Elle est allée ensuite dans la direction opposée. On a pu explorer réellement sa relation avec son petit ami. Et elle n'avait jamais eu d'amis réguliers. On pouvait donc montrer Samantha dans une relation. Donc on ne faisait pas simplement que partager sa maladie, mais on partageait aussi sa relation avec son ami. Et on n'avait jamais vu ça. C'est donc encore sur le sexe, mais un autre aspect du Sex and the City. Fascinant, hein? Après quelques coups de gueule, Harry et Charlotte se marient enfin. Ils vont adopter Lily, un bébé en provenance de Chine. Et c'est ni plus ni moins que Mikhail Baryshnikov qui tient le rôle du nouveau soupirant de Carrie. Artiste célèbre, Petrovski, le personnage qu'il interprète, charme Carrie et l'entraîne à Paris, où il va faire sa nouvelle grande exposition. La veille de son départ, Carrie reçoit la visite de Mr. Big, dorénavant divorcé. Mais Carrie part tout de même pour notre capitale. C'est de cet épisode de conclusion dont j'ai énormément parlé avec les deux scénaristes et producteurs de la série. Et tout d'abord avec John Melfi. Je vous avoue, je suis venu à Paris il y a 2 ans. Et une fois revenu aux États-Unis, j'ai lancé « On doit faire un épisode à Paris ». Donc c'est de votre faute, hein? Bah ouais, on a amené Michael dans un voyage à Paris pour faire une étude pendant une semaine. On s'est baladé dans les lieux qu'on avait déjà repérés, chaque endroit que l'on nous avait déjà recommandé, à la fois des lieux connus, mais ceux qui étaient moins connus. On y a passé 10 heures chaque jour pendant une semaine. Et il a vraiment pensé à tout, et on a vraiment vu des gens trébucher sur des crottes de chiens, et on s'est dit que c'était bien réel. Mais pourquoi venir à Paris pour une série qui est tellement identifiée à New York? Vous n'appréciez plus New York? Au point de ne pas y finir la série? Non, je vous provoque, hein. Non, ce n'est pas ridicule, en fait. Chacune des autres filles avait une relation. Carrie, elle, était notre célibataire. Elle rencontre Baryshnikov. C'est un grand voyageur. Il vit à Paris. Et c'est devenu une autre manière de raconter l'histoire. Et pour Carrie, c'était l'occasion d'avoir un autre amoureux. Paris est devenu son nouveau petit ami. Elle doit se rendre à Paris. Mais son petit ami et Paris, cela représente tout un personnage. Elle vit ce voyage pour finalement rentrer chez elle. Ce que Paris nous a permis de faire, c'est d'ajouter une autre texture, une autre couche à notre histoire de Carrie et de Mr. Big. Cela nous a donné une nouvelle façon de passionner notre public. Elle n'est plus aux États-Unis. Elle est en France. C'est très éloigné. Cela va vraiment nous montrer que Mr. Big l'aime, qu'il va traverser une partie du globe pour la reprendre et la ramener chez eux. Enfin, écoutons le showrunner Michael Patrick King, qui analyse avec moi le final de la série. Je savais ce qui allait se passer à Paris. Je connaissais les grandes lignes. Je n'avais pas les détails de la ville de Paris elle-même. Donc je suis venu 3 semaines avec John, juste pour observer, noter ce qui est drôle. Et mon vécu est devenu le vécu de Carrie. Et je dois vous féliciter pour la crotte de chien, parce qu'en effet, c'est vraiment tout à fait ça. Mais c'était aussi un moment comique. Ce que ça représentait pour moi, c'était son idée que elle va à Paris, et la réalité, c'est qu'elle est bien à Paris, mais émotionnellement, elle trébuche dans un tas de merde. La mère de Petrovski, hein? Pas la sienne. Mais cela la met face à ce qu'elle a fait. Elle fait beaucoup d'introspection, mais la vérité, c'est qu'elle ne regarde pas où elle va. Et c'est ça qui est drôle. Le moment avec la crotte, c'était Carrie ne regarde pas où elle va, elle se prend les pieds dans le tapis. Mais pourquoi finir à Paris une série qui évoque à ce point New York? Parce que cela symbolise vraiment être à la recherche de soi-même. Tout donner pour un homme. La meilleure manière de montrer cela, c'est de l'avoir abandonné sa vie pour un autre homme. Ce qu'elle a abandonné, c'est New York. C'est son identité propre. Et c'est un choc. C'est très négatif pour le public. Et je suis certain que ça l'est aussi pour les Parisiens qui regardent la série. Ils savent bien qu'elle est new-yorkaise. Et c'est pour cela que nous l'avons maltraitée à ce point. Je voulais que nos spectateurs sentent bien qu'elle avait fait une erreur. Et pourtant, c'est une erreur tellement belle que l'on peut comprendre aisément qu'elle tente de vivre un rêve de conte de fées. C'est la ville lumière, la ville des passions, la ville romantique. Mais nous avons essayé de montrer que chaque endroit peut être romantique et plein de vie si vous êtes émotionnellement au bon endroit. Et on ne termine pas la série dans un pays lointain. Mais chez soi. Tout était calibré pour ça. J'ai souvent dit que les 2 derniers épisodes étaient faits pour la scène où elle revient dans le coffee shop et que les filles hurlent en la voyant. Vous avez raison, c'est le moment qui m'a le plus ému. Je l'ai revu des tonnes de fois. Et en fait, il y avait une autre scène après, où elle discutait dans le coffee shop. Mais quand j'ai vu le résultat, j'ai réalisé que le grand moment, c'était son entrée. Et qu'ensuite, c'était fini. Dans la série, on passe de quelque chose de sensationnel et pas très réaliste à quelque chose de très réaliste. Et c'était très en rapport avec ce que nous voulions traiter. Donc le décor du coffee shop, c'est un décor. C'est un décor érigé dans notre studio. Mais dans la toute dernière scène, quand elle quitte le coffee shop, c'est vrai, c'est réel. Parce que maintenant, pour elle, le monde est réel. Carrie a tout traversé. On a donc reconstruit le coffee shop à l'endroit exact où il est censé être. On a mené la façade entière, on l'a érigée à l'endroit où ça fait raccord avec le fond. Cela afin que les gens puissent se dire, quand elle quitte le coffee shop, « Oh mon Dieu, cet endroit existe réellement !» Elle le quitte et on se rend compte que c'était bien réel. Et à la minute où Mr. Big la reconnaît, le monde entier existe bel et bien, y compris le fait qu'il a un prénom, parce que ce n'est plus un fantasme. mais on ne va pas le dire, hein. Ouais, on lit son prénom, mais personne ne le prononce. Et dans le générique début, on a toujours vu Carrie remonter la 5e avenue en venant vers nous. Là, elle remonte la 5e avenue, mais elle s'éloigne de nous. C'est très subtil. En 2004, la série se termine donc avec un double épisode à Paris absolument extraordinaire et une moisson de 7 Emmy Awards et 8 Golden Globes. Elle va ensuite donner naissance à un préquel, The Carrie Diaries, en 2013, qui dura une saison et demie. Anna Sophia Robb y tenait le rôle d'une jeune Carrie Bradshaw. Et en 2008, la série donne naissance à un, puis à deux et presque à trois longs métrages cinématographiques. J'avais évoqué ce passage au créateur de la série, Darren Star. Vous savez, on ne s'attendait pas à ça du tout. Mais je pense qu'on ne peut pas expliquer les raisons des plus grands succès. Ça arrive de façon très organique. Je pense qu'on ne peut pas prédire comment les choses vont se dérouler. Je pense qu'ils voient le succès d'une série et se disent que ça peut le faire en film. Il y a eu beaucoup de films basés sur des séries télé, beaucoup de remakes au cinéma. Le nôtre a bien marché. Il s'avère que nous avions aussi toute la distribution d'origine et cela fait une énorme différence. Je pense aussi que c'est parce que j'ai conçu Sex and the City comme une série de films, avec chaque épisode en tant que presque un court-métrage. Je voulais que ce soit compatible avec le reste de la programmation de HBO à l'époque, parce qu'elle était faite exclusivement de films de cinéma. En fait, au lieu de faire un remake de la série, nous avons fait une pause, puis nous sommes repartis et avons fait un film. Je crois que c'est assez unique. Pour beaucoup, les films sont carrément des produits annexes, qui reposent beaucoup plus sur le glamour, la mode et le buzz que sur les personnages. La série, elle, est, et je pèse mes mots, un chef-d'œuvre. Son showrunner, Michael Patrick King, nous détaille son évolution. Appréciez-vous plus la première partie de la série ou la dernière ? Pour moi, c'est le même sentiment, la même émotion que si on suit quelqu'un de 32 jusqu'à 38 ans. À 32, on est encore un peu tout fou, on aime les fringues, les rencontres. Quand on croise quelqu'un, ça explose de tous les côtés. C'est très drôle. Et graduellement, comme avec une relation, cela devient de plus en plus sérieux, de plus en plus profond. Je suis vraiment fier de là où nous avons abouti. Je suis heureux d'avoir approfondi des éléments, mais j'aime aussi le fait que les gens perçoivent la série sous des aspects comiques. Et quand, dans la saison finale, on fait des choses à Samantha, au sujet de ses poils pubiens, par exemple. Voilà, ça c'est formidable, parce qu'on fait durer la série. Mais je suis vraiment très content de son évolution. À chaque saison, un peu comme un couturier à la mode, il y a un style, un sentiment différent. Mais ça reste de qualité, j'espère. Et c'est ce qui fait que le spectateur est toujours sur ses gardes, ne se dit jamais « Oh, ça, je l'ai déjà vu ». Certains ont aimé les épisodes complètement barrés. D'autres ont préféré les épisodes plus émouvants. Mais il y a un équilibre. J'ai toujours pensé que parce que nous avions quatre filles, cela nous fait quatre histoires différentes. Peu importe où nous allons avec notre âme, on se permet toujours d'y inclure une histoire de sexe avec une autre protagoniste. Donc j'adore cette évolution. C'est le meilleur des deux mondes. Et je suis content de toute la série. Moi, j'aime la série quand elle est drôle et aussi quand elle est émouvante. Donc à chaque fois qu'un des deux ingrédients apparaît, je suis content. Globalement, de tous les épisodes, je suis assez fier de l'ensemble. Ben, vous pouvez.
Merci beaucoup.
Ça sera le grand écart dans le prochain Previously. Nous passerons de la série innovante et provocante à la série la plus traditionnelle du monde, le western rassurant et confortable par excellence. Et pour ne pas céder aux moqueries, je serai accompagné d'un invité de marque pour parler de La Petite Maison dans la Prairie. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.